Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. On est jeudi, il est 4h, ça veut dire que c'est l'heure des lectures érotiques de Charlie sur LSF Radio. Alors, si vous connaissez pas le principe, c'est tout simple. C'est une heure de radio consacrée à la littérature érotique, une heure pendant laquelle je vais vous lire des extraits d'une œuvre érotique. Et aujourd'hui, je vais vous lire les extraits de 3 œuvres érotiques parce que je vais vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore, la série littéraire écrite par Jeep, c'est Lizzie Exploratrice. Alors, il y a quelque temps, je vous avais fait une émission autour des 3 premiers épisodes. Et puis, entre-temps, j'ai lu la suite. Et du coup, je vais vous faire une lecture des 3 derniers épisodes. Donc, on aura Lizzie époque 4 avec le sosie de Lizzie. Lizzie époque 5, c'est Lizzie et l'œil de Nefertiti. Et enfin, conclusion en beauté avec le dernier épisode, Lizzie et la magicienne. Pour faire simple, hein, si vous n'avez pas du tout suivi, Lizzie est exploratrice du temps. Elle vient d'une époque un petit peu lointaine, du 32e siècle. Elle est fidèlement secondée par le cadet Charlus. Et Lizzie a une petite manie, elle adore le tourisme sexuel. Et étant voyageuse du temps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se programme des vacances sexuelles en choisissant différentes époques pour découvrir différents hommes, différentes femmes aussi, oui, car elle goûte un petit peu à tous les plaisirs et découvrir de nouvelles manières de faire l'amour. Si vous voulez lire toute cette série, Lizzie, exploratrice du temps, c'est chez Dominique Leroy que c'est édité. Donc vous allez sur le site dominiqueleroy.fr et vous cherchez Lizzie. Et là, ils sont tous disponibles, les 6 épisodes. Moi, je me suis vraiment régalée à les lire. De toute manière, j'avoue, j'ai un petit faible pour l'écriture de Jeep qui allie savamment science-fiction et érotisme et qui, avant tout, nous raconte des histoires. Et ça, j'adore. Jeep, il a aussi un site perso, c'est jeep-auteur.com. Et puis, il est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Framasphère, Twitter. Alors, pour vous en donner un, Twitter, son Twitter, c'est jeep_auteur. Voilà. C'est tout simple. Alors, hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. On va attaquer sans plus tarder. Donc, on attaque par la quatrième époque, le sosie de Lizzie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'envoyer directement vos tweets, c'est possible. Mon Twitter, c'est Charlie Live Show. Lizzie époque 4, le sosie de Lizzie. C'est écrit par Jeep et c'est paru aux éditions Dominique Leroy. Giuseppe et Lizzie. La banque de données de l'ordinateur de bord permit d'identifier très précisément l'emplacement et les accès de l'hôpital où se trouvait Charlus. Lizzie s'équipa pour l'intervention. Elle ignorait pourquoi le cadet avait été admis dans une unité d'urgence, mais elle devait le tirer de là au plus tôt et le ramener au 32e siècle afin qu'il pût être décemment soigné. Elle sortit du parc Monceau et se mit en quête d'un taxi. Malgré l'heure tardive, un véhicule s'arrêta bientôt à sa hauteur. Machinalement, elle ouvrit une portière à l'arrière, mais tandis qu'elle allait s'asseoir, une voix désormais familière l'interpella. « Tu peux aussi monter devant. Il n'y a pas de cocher dans ces automobiles, à mon grand dame. J'ai gardé un excellent souvenir de notre dernier covoiturage. « Giuseppe, que fais-tu ici ? » demanda-t-elle en prenant place à son côté. « Je savais que votre vaisseau était positionné non loin du parc. Je te guettais. » Lizzie refoula son désir. « Charlus avant tout, » se disait-elle. « Sais-tu où est situé cet hôpital, la Riboisière ? Mon coéquipier s'y trouve. »«
Bien sûr, » répondit Giuseppe très sérieusement. « Je t'accompagne. »
La circulation était fluide. Giuseppe évita Pigalle et mit un peu moins d'une demi-heure pour atteindre la gare du Nord. Il se gara à proximité de l'accès des urgences générales et ils pénétrèrent dans un des grands bâtiments. Un va-et-vient incessant facilita leur entrée discrète dans le service, ouvert de nuit comme de jour. Lizzie suivait sous le manteau les indications de la fragile lumière clignotante du transpondeur et localisa rapidement la chambre occupée par Charlus. Celui-ci dormait. « On hésite à réveiller un aussi charmant assoupi, » plaisanta Giuseppe. Lizzie n'y tenait plus. Elle se précipita sur Pellegrini et s'enroula littéralement autour de lui.
leurs bouches se joignirent avec fougue. Tandis qu'elle dégrafait la fermeture à glissière des jeans de l'homme, elle se souvint de l'aiguillette qui lui avait donné tant de fil à retordre dans le temps où ils s'étaient aimés sous le toit du vicomte de la Motte. La sous-colonel Strombe, touriste aguerrie mais toujours très curieuse, était allée au XVIIIe siècle afin de vérifier la véracité d'une légende persistante et elle n'avait pas été déçue. L'alchimiste était incroyablement bien membré. Elle constatait maintenant que la nature l'avait comblée et que l'éternité ne reprenait rien du cadeau octroyé. Lizzie, tout en déshabillant le comte, fit un rapide calcul. Le galant dont elle tenait à deux mains la massive bûche, qui grossissait encore sous la caresse, avait plus de 400 ans et il était vert comme au jour d'antan quand il l'avait besogné dans son incroyable véhicule hippomobile. Elle s'agenouilla pour emboucher le gland et renvoya à une prochaine fois le lot de questions qui lui brûlaient les lèvres. Celles-ci s'arrondirent en un cercle parfait qui goba l'engin. Ses doigts tournaient en spirale inversée autour du mât pendant qu'elle avalait la queue offerte à sa convoitise. Giuseppe s'accouda au lit sur lequel Charlus, apparemment toujours inconscient, était allongé. Il savoura les délicates palpations qu'il rythmait par instants de furieux coups de rein. Lizzie continua son ouvrage. Elle n'avait pas sucé le comte depuis leur dernière rencontre, soit quelques jours pour elle et quelques siècles pour lui, pensa-t-elle. Sans présager d'une hypothétique fidélité de sa part, mais compte tenu de sa réaction quand il l'avait aperçue dans la librairie, elle estima qu'il ne l'avait jamais oubliée. Elle en était flattée. Elle en était heureuse, pour être exacte. Le doux frisson qui accompagnait cette réflexion était aussi agréable que de percevoir les palpitations du mandrin énorme qu'elle peinait à introduire dans sa bouche. Ses mains jointes en conque soupesaient le scrotum avant de se resserrer autour de la base de la hampe et de remonter dans un bel ensemble le long du mât. Giuseppe poussait de longs soupirs à chaque prise et râlait alors que celle-ci se relâchait. Lizzie, engoncée dans son manteau dans la chambre surchauffée, sentait de fines gouttes couler dans son cou. Son amant s'en aperçut et parut très excité. Il la saisit par le bras et la releva afin d'enfouir son visage entre le col et sa joue. Il lécha goulûment la transpiration très légèrement salée. Dans le même temps, il mordillait le lobe de l'oreille de Lizzie, puis en suivant les sillons imaginaires tracés par la sueur jusqu'à l'orée du décolleté, il plongea entre les seins opulents de la jeune femme. Une décharge irradia les reins de celle-ci et la cambra aussitôt. Elle recula et heurta le lit. Elle réalisa soudain que Charlus dormait toujours. Il serait malséant de le sortir de sa couche, dans le but de prendre sa place en compagnie d'un coquin à la queue raide. Elle eut néanmoins la pensée que son cadet comprendrait la situation. On ne croise pas tous les jours un étalon qui ne vous a pas honoré depuis belle lurette. Paraphrasant un tyran, elle rit intérieurement pendant qu'elle s'imaginait déclamer. « De cette bite, 4 siècles me contemplent !» Elle dégrafa sa combinaison, fit glisser le long de ses jambes une culotte arachnéenne. Quand elle fut nue sous la taille, elle poussa des fesses Charlus et se cala confortablement. Elle s'ouvrit et attira d'un bras impératif le bassin du comte contre son pubis afin qu'il l'assaillît. « Petite inconsciente, » lui murmura-t-il. C'était une affirmation d'une prétention sans borne pour qui n'était pas doté ainsi, mais prévenante de la part de Giuseppe, qui était lucide à propos d'une certaine forme de handicap. Lizzie cria quand elle sentit sa vulve s'écarter. Elle avait la sensation qu'il la déchirait, tant la pression était forte sur ses parois délicates. La douleur fit place à des flots de pétales velouteux, tels de la soie qui titillait chaque terminaison nerveuse. Charlus était oublié. Il était poussé petit à petit par le cul de Lizzie, qui empiétait toujours un peu plus sur la couchette. Elle imitait un pont surplombant le cadet et bloquait toute chute éventuelle, même si ce n'était pas réellement son but. Elle s'était adossée contre la taille du patient et profitait pleinement des coups de boutoir de Giuseppe déchaînés qui la labourait sans ménagement. Lizzie sentit les prémices d'un orgasme d'une intensité inconnue jusqu'alors. Elle tentait de retenir la montée de la jouissance. Elle espéra que le comte la rejoignît dans ses sommets, mais l'ouragan arriva et la surprit. Elle suffoquait, et ses mains abandonnèrent le bord du lit pour agripper le torse de son amant. Celui-ci, encore un peu conscient de la présence d'un malade sous l'échine de la femme, attrapa l'une et l'autre. Il incurva violemment ses reins de manière à asseoir Lydie sur le haut de ses cuisses, la lâcha et tira Charlus par l'épaule et la jambe pour le caler tant bien que mal sur la couche. Puis il se retira en douceur. Aussitôt qu'elle eut mis pied à terre, Lydie regrimpa sur les draps et s'installa en position inverse de la précédente avec ses seins lourds qui entouraient le sexe flasque du cadet. Elle était maintenant une arche et offrait son postérieur pour que Giuseppe le tringlât. Celui-ci obtempéra de bonne grâce. Son pouce fut également de la partie et besognait un orifice étroit au rythme de son membre à la place qui lui était dévolue et désormais aménagée pour son usage. La coquine savourait l'instant sans vergogne. Elle frottait ses tétons contre la toile de coton rêche pour accentuer, si c'était possible, le désir qui l'inondait. Elle sentit alors un renflement qui grossissait entre ses mamelons. Elle tourna la tête pour surveiller Charlus. Elle l'avait totalement oublié. Un semblant de geste de pudeur à peine amorcé fut chassé par les cris et les propos obscènes qui exigeaient à grand renfort de termes orduriers que l'homme la possédât complètement. La porte de la chambre que Giuseppe bloquait d'un pied prudent claqua plusieurs fois quand Lydie enfouit son visage dans la couverture pour éviter de battre le rappel de l'ensemble de l'hôpital. Charlus arrêta de feindre le coma et Giuseppe déchargea entre les nymphes mises à rude épreuve. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda l'infirmière de nuit. La suite fut confuse. Les dévêtus se rhabillèrent à la hâte, le patient se leva du lit et le comte Pellegrini distribua quelques billets. Il espérait ainsi faire taire l'indignation bien légitime de la femme en blouse vert pâle. Devant le manque d'efficacité du procédé, les trois prirent la fuite. Charlus boitait et Giuseppe le hissa sur son épaule. Ils sortirent du bâtiment sans encombre. La voiture était garée à proximité. Ils démarrèrent en trombe. Charlus en voiture. J'étais sonné par l'enchaînement des événements. Le coït impromptu des deux amants m'avait extirpé de ma narcose, malgré la dose de barbiturique que le personnel hospitalier avait cru nécessaire de me faire ingurgiter au vu de mes contusions multiples. Dans un demi-sommeil, j'avais senti contre mon pubis deux globes fermes et remplis. Ils roulaient au gré des vagues qui emportaient une barque, malmenée par un ouragan, dans laquelle j'étais allongé. La houle semblait très forte. J'avais ouvert avec appréhension les yeux. Pas de gros temps. Les seins de Lydie ballottaient contre mon pénis et provoquaient une réaction naturelle dont j'avais eu honte, sans pouvoir y remédier pour autant. Les gémissements attisaient la flammèche qui redressait la tête sous les draps modestes de l'assistance publique. Faute de pouvoir regarder ailleurs, j'avais clos mes paupières. J'allais découvrir qu'on pouvait être un chronovoyageur et être sujet au mal de mer. Le comble. J'avais trouvé une esquive en laissant les abysses se refermer autour de mon esquif, malmené par le couple en rut. La porte brutalement claquée avait réussi à me faire émerger de l'océan mouvant. Lydie me mordait la cuisse au moment précis où l'infirmière, alarmée par les vagissements fous, vituperait dans le couloir. Giuseppe, debout derrière mon officier formateur qu'il tentait d'éventrer avec un pylône, bloquait le battant. La sous-colonelle avait poussé un dernier soupir et s'était relevée d'un bond. Elle avait rectifié sa tenue, puis m'avait giflé deux fois afin d'achever ce que leur parade amoureuse avait commencé, c'est-à-dire me réveiller. Je m'étais extrait douloureusement de ma couche. Voilà, c'était l'extrait de la quatrième époque de Lydie, le quatrième épisode, le sosie de Lydie. Bon, eh ben, on se fait une petite pause musicale et puis dans un instant, je vous lis un extrait de l'épisode suivant, à savoir l'œil de Néfertiti. C'est la cinquième époque de Lydie, exploratrice du temps. Bien entendu, si vous voulez connaître l'intégralité de cette histoire, qui est assez excellente, j'adore la manière... D'ailleurs, je ne sais pas s'il m'entend, mais Jeep, j'adore la manière manière dont tu as conclu toute cette histoire. Excellent, je me suis régalée. Pardon, un petit aparté. Donc c'est sur dominiqueleroy.fr que vous trouverez l'intégralité de cette série, Lizzie, exploratrice du temps. Allez, on se retrouve dans quelques minutes sur LSF Radio, hashtag LEC si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux. Et puis, profitons du bon son et à tout de suite. Et bien voilà, la petite pause musicale est terminée. On est toujours sur LSF Radio et c'est la suite des lectures érotiques de Charlie. Alors si vous avez raté le début et que vous ne savez pas du tout ce que je vous lis aujourd'hui, je vous lis les 3 derniers épisodes de la série littéraire Lizzie, exploratrice du temps, qui est écrite par Jeep. Donc, comme souvent chez Jeep, on retrouve un savant mélange d'érotisme et de science-fiction. Donc, on continue à suivre les aventures de Lizzie et de son fidèle coéquipier, le cadet Charlus. Et on change d'époque. Lizzie, cette fois-ci, toujours pour se changer les idées, pour un petit peu de tourisme sexuel, est partie en Égypte ancienne. Cet épisode, c'est le 5e, s'appelle « L'œil de Néfertiti ». Il est paru, bien entendu, aux éditions Dominique Leroy. Donc si vous voulez lire soit cet épisode uniquement, mais je vous conseille plutôt de lire l'intégralité de la série, ça se suit quand même. Et puis c'est sympa de voir comment ça se finit, c'est malin, c'est très bien foutu. C'est sur dominiqueleroy.fr. Et puis si vous voulez être au courant de l'actualité de Jeep, c'est soit vous le suivez sur les réseaux sociaux, par exemple son Twitter, c'est Jeep-auteur. Il est aussi sur Framasphère et également sur Facebook. Mais surtout, il a un site jeep-auteur.com d'ailleurs. Je vous le dis, le 20 janvier, donc c'est demain, normalement le 20 janvier, il y a 7, 8, 9, crois-tu qu'il bluffe ? C'est le troisième livre de ça. Vous savez quand c'est une trilogie mais par 4, quadrilogie. Je vous ai lu des extraits des 2 premiers, 1, 2, 3, Allons dans les bois, 4, 5, 6, L'or et la cerise. Voilà, j'ai hâte de le lire. Mais là, on n'est pas sur cette quadrilogie, on est sur Lizzie, exploratrice du temps. Donc, on attaque l'épisode 5, L'œil de Néfertiti. Hashtag LEC, c'est le hashtag de l'émission. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et si vous voulez m'envoyer directement vos tweets, mon Twitter, c'est Charlie Live Show. Alors on ouvre grand ses oreilles. Lizzie, époque 5, L'œil de Néfertiti. C'est écrit par Jeep et c'est paru aux éditions Dominique Leroy. Et c'est maintenant. Lizzie, en 1339 avant Jésus-Christ. Le domaine était vaste. Les cris et les gémissements de la sous-colonelle Lizzie Strombe étaient peu perceptibles depuis les ruelles étroites qui serpentaient entre les maisons basses. La discrétion était de mise, même si Nébaton, son amant, n'avait pas encore sollicité de son maître le privilège de faire sienne une compagne. Il n'avait pas non plus été convoité par une citadine afin de partager son toit. Le secret était pourtant nécessaire, car les étrangères étaient mal vues dans la localité. Méfie-toi d'une femme qui serait inconnue dans ta ville. Ne la regarde pas comme si elle était mieux que les autres. Ne la rencontre pas physiquement. Elle est semblable à une eau très profonde dont on ignore les remous. Le couple se retrouvait tard quand sommeillaient les artisans du faubourg. La chevelure rousse zébrée de mèches d'or et la peau translucide de Lizzie faisaient se retourner les habitants de l'agglomération nouvelle sur son passage. Elle prenait soin, habituellement, de dissimuler sa coiffure à l'aide d'une étoffe, mais elle s'était dévoilée devant le grand Jéhoutim, à l'heure où son élève préféré venait profiter de l'enseignement du favori du Dieu parfait, artiste et sculpteur en chef. Nébaton, épouvanté, avait fermé les yeux face au feu ondoyant qui brûlait sa vue, mais Jéhoutim l'avait rassuré. Il lui avait raconté que les peuples aux frontières du Nord avaient parmi eux des individus aux crinières de cuivre. La sagesse du tailleur d'images était proverbiale. Nébaton avait alors contemplé la femme au teint de craie, tandis qu'elle appréciait le renflement du pagne de l'éphèbe. Lizzie avait jeté son dévolu sur Nébaton. Cela ne laissait guère de choix à l'apprenti. Il la rejoignait la nuit, à la lueur des torches de genévrier qui flambaient presque sans fumée en parfumant les ateliers d'une entêtante odeur balsamique. Le jeune homme se levait silencieusement de sa couche, disposée dans la salle de repos qu'il partageait avec ses nombreux condisciples, longeait les celliers et entrebâillait la porte protégeant le hall des vents du désert. La maison du maître était à une vingtaine de coudées. Aucune fenêtre n'ouvrait sur l'allée couverte que suivait le couple pour atteindre une petite chambre destinée à des visiteurs éventuels. Nébaton allumait le brasero, où se consumaient des copeaux de cèdre utilisés afin d'éloigner les insectes nocturnes attirés par l'humidité et la fraîcheur de la pièce. Sa compagne ôtait ses sandales de cuir doré et défaisait la ceinture qui étranglait une robe de lin plissé. Le premier soir fut initiatique. L'inhabileté du garçon avait beaucoup ému la voyageuse. « Un peu de chair candide sera la bienvenue », se disait-elle cyniquement, surtout après avoir consommé une viande de 400 ans d'âge. Elle ne voulait pas l'humilier en stigmatisant sa maladresse, mais guida néanmoins ses gestes parfois tremblotants, sinon un peu brutaux. Elle partit à la découverte de son corps musclé et sec. Il se laissa faire, intimidé par tant de science. Il connaissait les secrets du modelage des terres rouges, mais prit conscience que sa peau pouvait aussi être malaxée et transformée en joyau de plaisir. Il se proposa de mettre à profit aussitôt le savoir nouveau. Lizzie accompagna alors ses mains solides sur elle. Elle le fit agenouiller devant ses jambes déployées et plongea sa tête au creux de son bas-ventre. Nébaton voyait souvent les esclaves d'âge tendre nus et n'attachait pas d'importance particulière à cet endroit de l'anatomie. Le seul mystère résidait dans un triangle de toile posé quelquefois devant le pubis et retenu par une cordelette nouée autour des reins. Il cachait un tampon de linge, mais il ignorait cela. Lizzie avait tout à l'heure happé son sexe en érection et il pensait découvrir avec une légère variante la même configuration. Une fente s'entr'ouvrait légèrement sous l'effet de son souffle brûlant. Instinctivement, il colla sa bouche contre les nymphes palpitantes. L'effet fut immédiat. Sa partenaire émit un son ténu et se renversa en arrière. Il goûta d'une langue peu assurée le liquide chaud qui s'écoulait maintenant abondamment. Il en éprouva la saveur, hocha mentalement la tête et jugea que le goût des femmes lui plaisait beaucoup. Lizzie plaquait très fort le visage juvénile dans le creux de son ventre. Ses gémissements étaient ponctués de petits cris qu'elle accompagnait d'une ondulation plus ou moins prononcée de son bassin. Les bâtons joua longuement avec ce qu'il pensait être une excroissance située à la jonction des lèvres humides. Elle était invisible quand il avait introduit une pointe renflée entre deux voiles de chair, mais elle semblait prendre plus d'ampleur à mesure que les hanches de sa belle se balançaient d'avant en arrière dans un rythme soutenu. Il estima qu'ici se trouvait la réplique de son propre pénis. Pourtant la taille demeura réduite et il pouvait la faire rouler entre sa langue et l'émail de ses dents éclatantes de blancheur. Il eut l'idée de modeler la peau plus veloutée encore que la terre soyeuse, pétrie par ses paumes d'ordinaire. Il saisit une nymphe, avec une délicatesse rare, et la caressa lentement de la pulpe de l'index. Un soupir plus profond ponctua son geste. Le garçon entendit cela comme un encouragement et enfonça très doucement une phalange entre les bords désormais très écartés de la brèche. À mesure qu'il plongeait au cœur d'une incroyable fournaise, le corps de Lizzie se courbait comme pour l'avaler davantage. L'exigence induite par le mouvement l'effraya un peu et il retira son doigt. Sa partenaire lui murmura qu'il devait continuer sans crainte. Elle affirma que c'était très bon et qu'il ne devait pas hésiter dans cet instant privilégié. Il obtempéra, elle cria. Nébaton était très excité par la révélation. Il prit plus d'assurance et calquait le déplacement de son bras au balancement de plus en plus rapide de la femme qu'il branlait. Lizzie le guidait de la main et de la voix. Elle lui demanda soudainement d'arrêter. Il supposa qu'il faisait peut-être mal ce qu'elle attendait de lui. Il leva les yeux vers le visage nimbé d'or et de cuivre et remarqua la carnation des joues empourprées. Il tenta de se relever pour l'embrasser tendrement, mais elle plaqua son pubis contre le torse puissant de l'adolescent. L'ordre était franc. Elle lui enjoignait de continuer. Elle précisa « Recommence, mais doucement. » Il appliqua la consigne. Le jeu se répéta un grand nombre de fois. Lizzie avait le souffle court, les pommettes rouges, et elle souriait pour elle-même, les yeux dans le vague. Elle était bouleversée aussi par la candeur de Nébaton, qui n'avait d'égal que son désir de bien faire. Elle le félicita. Il avait collé sa joue et son oreille contre le nombril de son amante. Le battement sourd du sang lui rappelait les tambours dont le martèlement rythmait les processions religieuses. Elle l'écarta doucement, et d'une main impérieuse, elle alla vérifier que le sexe du jeune homme était toujours érigé. Elle hésitait entre l'amener mesurément en elle ou le susauter. Elle choisit la deuxième option après un instant de réflexion, autant pour le récompenser que pour le plaisir de goûter l'accession à l'âge adulte et aux exultations érotiques. Nébaton jouit très vite. Elle sentit avec ravissement la semence couler dans sa gorge. Il n'avait pas dit un mot, ni émis le moindre gémissement. Elle se promit de lui apprendre, lors de la prochaine séance, à ne pas limiter son contentement et à l'accompagner de râles non contenus. Ils restèrent longuement l'un contre l'autre sur la couche étroite. Puis il la reconduisit avant que le jour se levât à la porte de la propriété. Charlus et Jérémie. Jérémie avait pris quelques jours de congé pour m'accompagner dans ma quête. Je cherchais un recueil de photographies, acheté peu de temps auparavant dans la boutique qui employait le jeune homme. Je me souvenais avoir tenu fermement le livre contre moi pendant que les pompiers emmenaient mon corps endommagé par une camionnette à l'hôpital Lariboisière. Mais quand mon officier formateur, la sous-colonelle Lizzie Strombe, était intervenu pour me sortir de la chambre aseptisée, après un long intermède érotique et bruyant en compagnie de Giuseppe Pellegrini, je m'étais aperçu que l'ouvrage avait disparu. C'était le résumé de la situation. Sans la présence de Jérémie, je serais seule dans Paris en 2010. Je connaissais assez bien certains quartiers de Paname, comme l'appelaient ses habitants, mais ma dernière visite datait un peu. Le Paris de 2010 n'était pas tout à fait celui de 1930. De plus, Lizzie avait pris le chrono-vaisseau, ce qui voulait dire que je n'avais plus accès aux données de l'ordinateur de bord. Sans la séduction de Jérémie, j'aurais sans doute fait un court bond dans le passé. J'aurais guetté l'accident et récupéré l'album sans délai en tirant parti de l'attroupement autour de ma carcasse étendue sur la chaussée. J'étais content que Lizzie désirât partir au plus vite de cette époque et qu'elle n'eût pas pensé à cette solution. À moins qu'elle ait surpris les regards que le beau Jérémie et moi-même échangions. Elle avait peut-être estimé que je méritais un petit palier de décompression, à l'instar des vacances érotiques qu'elle s'octroyait entre chaque mission. L'enquête commençait nécessairement à l'hôpital Lariboisière. Sur le chemin, nous fîmes un large détour par un quartier que Jérémie voulait à tout prix me faire visiter. « Tu verras, c'est un village dans la ville. Le Marais, c'est une bulle d'oxygène au cœur de notre vie trépidante. Tu vas adorer. Tu dois connaître ça avant de rentrer dans ta province. » J'avais menti, par omission, à propos de ma provenance, tout comme Giuseppe qui se faisait appeler Joseph. Les circonstances ayant contribué à notre présence dans cette ville dans le même temps n'étaient pas équivalentes, mais nous ne pouvions certainement pas dévoiler nos véritables origines. Cela ne me semblait d'aucune importance. Je savourais l'instant. Nous déambulions dans la rue des Archives. J'avais avec ce garçon une complicité que je n'avais connue avec aucun de mes condisciples de l'Académie Gratien. Sabrine et Dorme étaient mes plus proches amis, mais les fous rires partagés pendant nos années d'insouciance avaient fait place à l'autosuffisance d'un joli couple tourné sur son propre sort. Sabrine comptait les années en nombre d'enfants qu'elle projetait d'avoir, son fécondeur Dorme était un cadet promis à un bel avenir et tout allait bien dans le meilleur des mondes confortables et stérilisés. Je constatais pendant cette flânerie au cœur du quartier de prédilection de Jérémie que « futur » ne signifiait pas avancée sociale ou morale. Il soufflait une légère brise de liberté que j'appréciais beaucoup. Mon costume strict, façonné selon les consignes de la banque de données du chrono-vaisseau, ne passait pas inaperçu dans le foisonnement excentrique des tenues efféminées que côtoyaient des uniformes de cuir. « Tu fais cadre moyen, Charlus. Faudra t'habiller plus cool. T'es tout endimanché. se moquait Jérémy qui virevoltait tel un papillon dans un champ de luzerne. Je songeais au carcan de mon propre siècle. Pouvait-on parler de régression ? Mon époque tolérait officiellement la différence, mais l'admettait de moins en moins. La science estimait de son devoir de corriger les failles éventuelles de l'individu et l'attirance pour un genre semblable au sien était considérée comme un handicap à la sérénité du parfait citoyen. Voilà, c'était le deuxième extrait. Donc, c'est un extrait de Lidzi, époque 5, l'œil de Néfertiti, l'avant-dernier épisode de toute la série Lidzi, exploratrice du temps. Alors, c'est écrit par Jeep et c'est disponible aux éditions Dominique Leroy, dominiqueleroy.fr si vous voulez vous offrir la série. On se fait une petite pause musicale encore une fois, hein, les petits chouchous, les petits chéris, voilà, je vous appelle par plein de petits noms, j'ai envie, c'est comme ça. Et puis moi, je vais en profiter pour aller m'équiper pour la dernière partie, car elle est en mode hystérical littérature, du coup, je vais m'armer de mon Womanizer Pro 500 pour vous faire la suite de la lecture. Et la suite, ça sera le sixième et dernier épisode de la série, Lidzi et la magicienne. À dans un instant, restez à l'écoute sur LSF Radio.